Nicolas Bacri, Eliane Reyes, je suis très heureux de vous rencontrer autour de ce micro d'une émission qui est au départ une émission littéraire. Alors on va essayer d'explorer avec vous, Eliane, artiste pianiste, et avec vous, Nicolas Bacri, compositeur, comment se passe cette alchimie qui fait la création musicale, d'un point de vue comme de l'autre. Alors, je vais me tourner d'abord vers Eliane Reyes. Ce disque que vous venez de sortir chez Naxos, les œuvres de Nicolas Bacri, comment est-ce que vous les avez perçues la première fois que vous les avez essayées sur le clavier ?
C'est une longue histoire, parce que la première fois que j'ai commencé à jouer de la musique de Nicolas Bacri, ça remonte en 2004-2005, lorsqu'il a composé son Prélude et Fugue pour piano. Donc ça, c'est la première œuvre que j'ai eue entre les doigts, et que j'ai créée à Cuba, d'ailleurs, pour un concert de musique contemporaine à Cuba. Et ensuite, j'ai eu envie d'explorer d'autres œuvres et de découvrir la littérature pour piano. Il était en train d'écrire la deuxième sonate un petit peu plus tard aussi. Donc, j'ai vu la première ébauche de cette sonate. Et voilà, j'ai grandi dans les 5 dernières années avec les œuvres du disque. Puis, j'ai eu l'occasion de jouer tout le programme en concert aux Flâneries musicales de Reims en 2009. Donc voilà, ça a eu vraiment le temps de mûrir et le temps, c'est une longue histoire.
Alors, on fait l'interview en présence du compositeur, donc cette question-ci va peut-être vous embarrasser un peu. Quel est le sentiment que vous inspire le disque une fois qu'il était achevé ?
Je pense que ça montre un large panel de la musique de ce que Nicolas Bacri peut écrire pour piano. Ça, c'est mon chat, il ne faut pas s'inquiéter.
Oui, il faut dire, on est chez vous et voilà. Alors il y a un chat qui est en train de partager les reliefs dans les assiettes.
Exactement. Donc, ça montre un large panel de la musique pour piano de Nicolas. Ça va de ses œuvres de jeunesse à l'âge de 17 ans, 18 ans, avec ses improvisations, l'enfance de l'art, et jusqu'à des œuvres très abouties, comme la deuxième sonate. Et je pense que, voilà, il y a un peu tout. Donc, on ne s'ennuie jamais en écoutant ce disque et il y a plein de sentiments différents.
Alors, Nicolas Bacri, à votre tour, quel est le sentiment que vous-même avez ressenti au moment où vous avez entendu les premières interprétations d'Eliane Reyes de ce que vous veniez de composer ?
Alors, j'ai commencé par entendre le Prélude des Fugues qu'elle m'avait envoyé par la poste, et je trouvais très très beau. J'ai trouvé que c'était une très très belle interprétation, et j'avais des raisons d'être difficile parce que j'ai écrit ce Prélude des Fugues pour un concours international, le concours Piano Campus à Pontoise. Pascal Escande m'avait commandé donc cette pièce. Et j'avais donc eu la chance, étant donné que c'était l'imposé du concours, de l'entendre jouer par 10 demi-finalistes de ce concours. Donc je pouvais effectivement être difficile, parce que je l'avais entendu quand même 10 fois bien jouer, dont 2-3 fois excellemment. Et donc l'interprétation d'Eliane Reyes m'a conquis d'emblée parce que elle avait mis en avant le côté expressif et lyrique de cette musique, parce que on peut dire un prélude des fugues, il y a le côté formel de la fugue, le côté presque académique de la fugue, et on peut jouer ça, on peut se dire donc c'est un exercice d'écriture un peu froid, on va jouer un peu froid, et elle a évidemment vu que pour moi ça n'était évidemment pas un exercice académique, mais c'était plutôt à travers le prétexte de cet exercice, faire tout simplement de la musique expressive. Et donc, lorsque elle s'est intéressée à ma deuxième sonate pour piano, qui m'avait été commandée par Julien Quentin pour un récital à la Suisse romande début 2008, donc une œuvre que j'ai écrite fin 2007, j'étais très heureux parce que là aussi, j'avais été gâté par la première audition, bien entendu, mais je me suis dit, si elle continue le même type de travail de lyrisme qu'elle avait entrepris dans le Prélude des Fugues pour ma musique dans la sonate, ce sera tout à fait merveilleux, et c'est le cas. Et c'est d'autant plus le cas que j'ai, après qu'Eliane ait joué la pièce, qu'elle en ait fait la création française, puisque Julien Quentin en avait fait la création mondiale en Suisse, j'ai eu envie de rajouter encore des choses dans cette sonate. Et donc, il y a eu une première révision en 2008 et une dernière en 2009.
Est-ce que cela voudrait dire que lorsque vous entendez un interprète jouer une de vos œuvres, vous pouvez vous dire à un moment donné, tiens, je pourrais y ajouter quelque chose parce que cet interprète-là va le jouer?
Alors, c'est pas seulement parce que cet interprète le joue, je pense que ça y participe, certainement, mais qu'il y a aussi une autre dimension par rapport à ça, c'est que je prends de plus en plus conscience que le travail de création sur une œuvre commence bien avant le début de l'écriture et se termine parfois bien après. Le travail sur la création d'une pièce, évidemment, l'écriture de la pièce, c'est le travail principal. Mais il m'arrive d'écrire des choses que j'avais déjà pensées en termes plus ou moins précis, parfois des décennies avant. Et également, dans l'autre sens, ce qui est plus embêtant pour les éditeurs, qui veulent évidemment fixer un texte définitif, ce qui est tout à fait normal. C'est qu'aussi le travail de continue après qu'on ait fixé l'essentiel de l'œuvre sur le papier, et il arrive que les interprètes mettent en évidence, en fait, plutôt que suscitent, cette dimension d'inachèvement et de moins d'inachèvement que de continuation, tout simplement, du processus créateur.
Eliane Reyes, j'aimerais avoir votre point de vue sur cette dimension-là. Est-ce que l'interprète, finalement, d'une certaine manière, peut inspirer le compositeur dans la manière, par la manière qu'elle a d'interpréter ses œuvres, dans l'expérience que vous avez avec ce CD?
Oui, c'est valable surtout au début des œuvres, lors des créations, lorsque ce sont des œuvres. C'est pas valable avec les compositeurs, évidemment, dont l'œuvre a déjà fait son chemin depuis 40 ans. Mais ici, évidemment, c'est vrai qu'il a changé des choses suivant mon pianisme ou suivant des suggestions. Je pense apporter l'un l'autre. C'est pour ça qu'il y a une révision de la sonate, en l'occurrence. Mais effectivement, ça va dans les deux sens. Moi aussi, je suis plus inspirée. J'ai une autre vision en ayant travaillé avec le compositeur. Si je ne le vois pas, et que il y a des interprètes qui ne travaillent pas nécessairement avec les compositeurs, parce que voilà, ils habitent trop loin, parce que on
Oui,
n'a
dans
pas
ce cas-ci.
l'occasion. Ici, c'est vraiment un travail de collaboration, et ça, c'est très important. C'est pour ça que je pense que ça fait aussi la qualité du disque en plus. C'est que vraiment, on a une vision commune de l'interprète et du compositeur. Parce que voilà, si j'avais envie de jouer Joseph Horowitz, on l'a enregistré avec Ronald Van Spandonk dans un précédent disque de Fuga Libera. Au dernier moment, j'ai appris qu'il habitait à Londres. On a eu l'occasion d'aller lui jouer, mais combien de clarinettistes et pianistes n'ont pas eu l'occasion parce qu'on ne savait pas qu'il habitait à Londres? Et donc, combien d'enregistrements ont été faits sans avoir l'avis du compositeur?
Non, mais là, je dois ajouter qu'en plus, on est dans une situation tout à fait privilégiée puisque nous vivons ensemble. Hein. Nous sommes compagnons, donc on se connaît bien, on s'aime. Donc cette connexion est tout à fait privilégiée par rapport à un travail. C'est pas seulement le fait de vivre dans la même maison. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, à l'abbaye de la Pré, qui était un domaine assez grand où plusieurs artistes habitaient. J'ai eu la chance d'écrire ma première suite pour violoncelle pour un violoncelliste qui habitait au même endroit. Donc ça c'est formidable. Mais là, c'est encore plus. C'est-à-dire que le fait de vivre ensemble, de partager une vie, je crois que ça crée une connivence, une connexion tout à fait privilégiée.
Est-ce que, Eliane Reyes, cela veut dire aussi que vous ressentez une émotion particulière, vous, au moment où vous voyez, pas pour la première fois, mais vous voyez la partition et que vous vous apprêtez pour la première fois à l'interpréter?
Oui, bien sûr, je sais que j'aime déjà l'œuvre avant de la jouer, mais j'avais déjà ce feeling-là avant de connaître Nicolas personnellement. Donc ça n'a fait qu'amplifier les choses, mais c'était déjà là. Je pense que quand on ressent la musique d'un compositeur, c'est là ou c'est pas là. Et après, ben, évidemment, ce que nous vivons, c'est tout à fait unique, mais le sentiment profond de ressentir la musique, cette musique contemporaine, mais tout à fait tonale, accessible, et qui réconcilie le public et les interprètes avec la musique contemporaine, ça, j'étais déjà 100% pour cette vision.
Comment un interprète vit-il ce premier moment où il joue le début d'un morceau?
On découvre, évidemment, c'est l'inconnu, et puis petit à petit, on rentre dans l'œuvre, on se fait une idée. Un premier jet d'une œuvre, c'est toujours spécial. Misha Maïski m'avait dit une fois, il dit, il faudrait toujours enregistrer les premières lectures des œuvres, parce qu'il y a une magie, il y a une découverte, et on trouve des choses qu'après, on perd, une fraîcheur, et puis un instinct, le premier instinct. Après, on peut s'éloigner de cette vision première, mais l'instinct et la découverte, la magie, qui opère lors d'une lecture, pourtant qu'on soit quand même bon lecteur au départ. Il faut aussi une certaine facilité, mais c'est vrai que ça donne vraiment un côté magique.
Et alors pour certaines pièces, déjà, tu as pu entendre, par exemple, la pièce que j'ai écrite pour le festival d'Auvers-sur-Oise en hommage à Dutilleux, qu'Eliane Reyes a créé, donc ça c'était en juin 2010, il me semble. Là, en fait, quand j'ai composé la pièce, je te l'ai jouée. Bon, alors, je l'ai jouée maladroitement, etc., pas comme un vrai pianiste, mais... Donc, avant de poser les doigts dessus, tu avais déjà entendu une version qui était peut-être pas valable pianistiquement, mais musicalement, qui n'était pas complètement nulle non plus.
Oui, parce que là, tu parles d'une œuvre que tu as écrite, alors que j'étais à tes côtés, j'ai vu mesure par mesure, j'ai vu naître l'œuvre. Moi, je pensais plutôt à des œuvres que j'ai découvertes dans le disque, comme L'enfance de l'art, qui avait été écrite lorsque tu avais 17 ans. Donc, voilà, c'est vrai, c'est pas la même chose. Là, c'était ma découverte, j'avais pas de point de repère, ça n'avait jamais... C'est un premier enregistrement mondial, il faut aussi le signaler, donc j'avais aucun...
Tout le disque, ce sont que des pièces qui sont enregistrées pour la première fois.
Je signale quand même que chaque fois, on est en train de jouer avec le chat qui passe d'un côté à l'autre de la table, ce qui explique parfois. Alors, Nicolas Bacry, j'aimerais revenir vers le côté composition cette fois-ci. J'aimerais qu'on entre un peu dans le secret de la création. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit, dans le cœur, dans la tête, dans l'intelligence d'un compositeur lorsqu'il se dit « je vais écrire une pièce, je vais écrire une pièce pour le piano, je vais écrire une symphonie, je vais écrire un opéra. »
Mais je crois que c'est très difficile d'en parler parce que, bon, et bien entendu, ça fait très longtemps qu'on me demande d'en parler, donc j'en parle un peu, mais je ne sais pas s'il faut que j'en parle trop. Je ne sais pas s'il faut que j'en parle trop parce que dans la création, il y a quelque chose d'extrêmement intuitif et spontané. Et si on y réfléchit trop, le risque, c'est d'être paralysé. C'est un peu comme si vous demandez à un mille pattes comment il bouge la 398e patte. Donc, au bout d'un moment, il ne sait plus, quoi. Parce que, donc, en tout cas, il est évident qu'on n'écrit pas une symphonie comme on écrit une petite pièce, ou on n'écrit pas une sonate pour piano comme on écrit un prélude pour piano ou une étude pour piano. Je veux dire, chaque genre, évidemment, implique une conception formelle, mais aussi psychologique et musicale, parce que tout est lié, bien entendu. C'est pas la forme sonate, c'est pas simplement un plan qu'on doit respecter, c'est un esprit, c'est une forme d'écriture.
On dit de vous, et j'utilise un lexique qui n'est pas un lexique de spécialiste de musique, on dit de vous que vous êtes un artiste très accessible, la composition est très accessible. Est-ce que je peux traduire cela en disant que vous engendrez des émotions qui sont des émotions qui sont presque immédiatement perceptibles par la musique ?
Oui, moi je crois que l'accessibilité est une chose extrêmement importante. Mais je crois aussi qu'une œuvre véritable ne révèle ses secrets qu'après beaucoup d'écoute. C'est-à-dire que c'est un peu un paradoxe. Je crois qu'une œuvre forte doit pouvoir interpeller l'auditeur dès la première écoute, mais elle ne doit pas se révéler complètement à lui dès la première écoute. Alors, il y a aussi des œuvres qui ne révèlent rien, même après des dizaines et des dizaines d'écoutes répétées. Alors, et puis d'autres dont on épuise le charme très très vite. Et moi, j'essaye d'écrire la musique comme je souhaite l'entendre. C'est-à-dire, j'essaye d'écrire une musique que j'aimerais entendre. Et je n'aime ni les musiques qui se révèlent trop facilement, ni celles qui me restent totalement hermétiques.
C'est peut-être effectivement une leçon aussi pour les auditeurs de musique classique d'écouter plusieurs fois un même morceau pour s'en imprégner. Est-ce que Liane Reyes, le jouer plusieurs fois, vous fait découvrir de nouvelles richesses dans une œuvre, celle de Nicolas Bacri ou d'autres?
Oui, bien sûr. De toute façon, ça se travaille une œuvre. Donc c'est vrai qu'on passe des heures et des heures dessus à tout décortiquer, voix par voix, mains séparées, avec des tempi différents. Donc évidemment, on apprend toujours des choses dans la polyphonie des œuvres, la mélodie, l'utilisation de la pédale. Et bon, on travaille énormément pour qu'une œuvre soit vraiment aboutie et qu'on arrive à transmettre ce qu'on ressent à l'intérieur et que ça passe par les doigts sur le clavier, qui est quand même un instrument en percussion. On doit vraiment faire une démarche assez longue, et donc ça nous demande beaucoup de temps. Et chaque fois on évolue, chaque fois on se dit qu'on essaie différemment, on apprend aussi.
À chaque fois qu'on la joue devant un public, je pense. Parce que je pense que. Enfin, moi, il y a un interprète qui m'a dit. C'était un quartettiste d'ailleurs, ce premier violon du quatuor Lindsay, Peter Cropper. Il me dit voilà, on a joué cette œuvre qui a été écrite il y a 80 ans, qu'on n'avait jamais jouée. Ça nous a intéressé de la travailler, cette œuvre. Et puis, on l'a jouée en public. Et là, on a été extrêmement déçus. C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé quand on l'a jouée en public. Et donc, on l'a plus rejouée, tout simplement.
Mais l'inverse peut se produire.
Et l'inverse, heureusement, peut se produire. On travaille une œuvre, on trouve ça terrifiant. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est difficile à jouer. Mais qu'est-ce que va penser le public de ça? On le joue. Et puis, il se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire qui nous donne envie de le rejouer une deuxième fois. Puis la deuxième fois, il se passe encore quelque chose de différent, etc., etc. Et bien, c'est ça, les œuvres qui restent, les œuvres du grand répertoire. C'est des œuvres... C'est pas forcément quelque chose qui plaît ou qui déplaît, etc. Ça va au-delà du simple plaisir ou du simple déplaisir. C'est quelque chose qui, je crois, tout simplement, nous met sur la voie d'une meilleure connaissance de nous-mêmes, en fait. Je crois que la musique, c'est quelque chose d'existentiel. Voilà. C'est pas décoratif, c'est pas...
C'est en cela que ça implique une écoute.
Bien sûr, une écoute dans laquelle